Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Vous êtes exaspéré par certaines discussions. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 606. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez des idées, que vous avez envie de les développer. Et vous savez que je suis là pour vous aider à développer vos idées, à les partager, à créer votre marque personnelle, à la développer et aller jusqu'à la monétisation ou peut-être une nouvelle vie créative basée justement sur votre contenu. Je voudrais commencer cet épisode par vous raconter un petit, une petite histoire. La semaine dernière, j'ai organisé un live pour l'anniversaire du Hamster Zoning Club, donc c'était sur la chaîne YouTube du Hamster Zoning Club, et notre invité, moi et Armano, était le docteur Denis Boucher. Alors c'est un personnage qui est cash, moqueur, direct sur le poids, sur le mode de vie sédentaire. Bon, il a pas la langue dans sa poche, hein, puis même un petit peu des fois, outrancier, on pourrait dire par moment. Donc il y a ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Bien entendu, il y a eu des réactions hein, après ce live. Donc il y a ceux qui ont adoré, il y a ceux qui ont détesté, il y a ceux qui ont écouté, au bout de quelques minutes ils sont partis, qui pouvaient pas supporter ce qu'ils pouvaient dire, qui détestaient la teneur des propos. Et donc il y a ceux qui se sont plaints, hein, voilà, il y a ceux qui ont manifesté en disant bah je comprends pas pourquoi il était invité. Moi ça m'a fait grogner et d'autres personnes ont défendu ce choix. Alors, c'est une situation très courante et qui demande une petite analyse parce que cette situation là en fait, elle a été étudiée et largement avant internet, j'ai envie de dire, parce que ça nous ramène au triangle de Karpman qui a été décrit en 1968 par le psychologue Stephen Karpman, avec qui il a publié une analyse des enjeux de manipulation dans les relations humaines. Et il propose un triangle avec trois rôles. Persécuteur, sauveur, victime. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque rôle est à équidistance des autres. Hein. En fait, on peut passer d'un rôle à l'autre, parfois dans la même discussion. Et le triangle est pensé quand il y a trois personnes, mais fonctionne aussi quand il y a que deux personnes, et peut fonctionner quand il y en a plus, parce que finalement, dans certaines discussions, il peut y avoir plusieurs sauveurs, plusieurs victimes, plusieurs persécuteurs. Bref, il peut y avoir une espèce d'alliance entre elles. Toutefois, ce triangle, il était appelé dramatique, car les observations montrent que tous les rôles sont fatigants, épuisants psychologiquement, que chaque rôle souffre et que personne ne sort jamais vainqueur de ces discussions où en fait bah il y a ces trois positions qui dominent ou qui essayent de dominer en tout cas, qui essayent d'une manière ou d'une autre un petit peu de manipuler hein, ce que vont penser les autres et de leur attirer un petit peu sa manière de penser, sa sympathie ou de les convaincre. Alors je ne vais pas détailler Karpman hein, parce que il y a des études complètes et on rentrerait dans la psychologie, puis j'ai pas vraiment le temps en quelques minutes, mais je trouve cette notion vraiment intéressante pour analyser ce qui se passe et ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, dans nos contenus aussi, dans les discussions autour de nos contenus, dans même nos communautés, vous voyez, dans tout un tas de domaines dans lesquels nous créons du contenu. En fait on peut vraiment tomber souvent dans l'un de ces trois rôles et dans ce triangle dramatique. Regardons un peu les trois rôles, vous allez comprendre tout de suite. Si je suis persécuteur, bon là vous avez pas de mal à le considérer, notamment c'est tous les commentaires cinglants, les méchants, ironiques, les trolls, les harceleurs. Vous voyez tout ça en fait hein, que vous croisez sur internet, là-dessus il n'y a pas de doute, on en croise quasiment sur toutes les plateformes. Moi aussi hein, j'ai mon petit mes commentaires cinglants par exemple sur Strava quand je mets certaines courses, et eh ben j'ai toujours le même commentateur qui vient, qui me met un petit commentaire qui est pas toujours très sympa. Voilà, et puis des fois il a fait par message privé, et puis des fois il va voir d'autres personnes de mes connaissances et va leur mettre le même type de message. On a tous des gens qui se comportent comme ça dans notre audience, ça arrive. Voilà, c'est sûr, ça arrive. Donc on a tous connu un jour un persécuteur ou un autre. La question c'est de savoir si parfois on l'a pas été. Mais on y viendra plus tard. Le rôle de victime, il est aussi facile à comprendre parce que finalement la victime, elle se plaint, elle met en scène son malheur, elle veut susciter de la pitié, elle va dire qu'elle est incomprise, qu'elle est pas bien, que des fois même elle va essayer de par exemple de faire des selfies en montrant qu'elle est bien alors qu'en fait en même temps elle dit bah voilà, cette photo, vous avez l'impression que je suis bien mais finalement je suis vraiment pas bien du tout, etc. Là ça va pas, etc. Et puis à côté de ça vous avez le troisième rôle qui est le sauveur. Bon bah bien sûr le sauveur, il ne peut pas s'empêcher de vouloir aider, il est le sauveur du monde hein, voilà, très clairement. Celui-là vous le voyez très bien. Le psychiatre américain et créateur de l'analyse transactionnelle Eric Berne, qui est un élève de Karpman, a lui ajouté en plus dessus des mythes hein, des légendes qui sont ancrées dans notre esprit, et en fait on y croit inconsciemment et c'est ce qui va nous faire agir en conséquence. Alors comment ça marche? Eh bien, par exemple, il y a ceux qui pensent que j'ai le pouvoir de rendre les autres heureux. Et là, dans ce cas-là, ben, on est un sauveur. Et ben voilà, et quand on est un sauveur, on a besoin de victimes pour faire vivre finalement ce mythe interne. Un autre mythe qu'on peut se raconter, c'est les autres ont le pouvoir de me rendre heureux. Et ben là, on est plutôt dans une croyance de victime. Et puis là, bien sûr, il va nous falloir un sauveur. J'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux. Bon, ben, dans ce cas-là, on est clairement un persécuteur, mais il va nous falloir une victime hein, pour faire vivre notre mythe et continuer finalement à être ce persécuteur et rendre les autres malheureux. Et puis, les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux. Là, c'est une croyance de victime. On a besoin d'un persécuteur pour faire vivre le mythe. Voilà. Et j'ai besoin d'un persécuteur, quelqu'un qui va me persécuter. Et peut-être même, d'ailleurs, certains vont y trouver un certain plaisir, hein, en tout cas en apparence, ou en certaine satisfaction, parce que finalement, ça correspond, j'ai envie de dire, à leur mythe de dire, bah voilà, moi je suis une victime, je suis malheureux, les autres me rendent malheureux, etc. Et donc, à chaque fois que je dis, s'il y a quelqu'un qui vient me mettre un commentaire négatif là-dessus, et bah finalement, il me conforte dans mon mythe. Bon, là, vous avez compris un petit peu la logique de tout ça, et en partant de là, vous allez vous rendre compte que parfois, vous pouvez être dans ces situations, que même souvent, vous êtes dans ces situations, et je vais vous donner des exemples. Et en fait, il faut bien se rappeler que ce n'est pas bon pour vous ni pour les autres, et qu'en fait, on peut être tour à tour l'un ou l'autre. On peut être victime, on peut être harceleur, on peut être le sauveur, hein, on peut être vraiment dans tous les cas. On peut avoir les trois rôles, victime, persécuteur et aussi le sauveur. Je vais prendre un exemple parce que ça, on le voit très souvent. Vous voyez sur Instagram une personne qui se plaint de son quotidien et en fait, vous avez l'impression qu'elle se plaint pour se plaindre. Vous dites, ouais, bah, finalement, attends, elle est pas si malheureuse que ça. Il y a plein de cas, hein. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu une jolie fille qui dit qu'elle est moche, qu'elle est grosse, etc. Alors qu'en pèse, paraît super belle, qu'elle est toute fine, etc. Et puis vous dites, ouais, attends, toi tu te plains alors que moi ça va, je galère, etc. Mais moi je pourrais avoir le truc aussi, hein, avoir un créateur de contenu qui gagne plein d'argent, qui se plaint qu'il en gagne pas assez, alors que moi sur le même mois, je vends pas une formation, et je lui dis, mais moi ça va pas, etc. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais voir? Je peux agir en tant que sauveur, en voulant l'aider absolument et en essayant de la réconforter, lui mettant des arguments, etc. Je peux aussi agir en tant que persécuteur, en lui laissant un commentaire cinglant, car ça m'énerve de l'avoir fait ça. Je pourrais dire, oh, hey, de quoi tu te plains, quoi, franchement, et puis des fois, on peut y mettre des mots pas très sympathiques, mais ça, vous l'avez tous vu. Alors, dans le premier cas, je risque de perdre beaucoup de temps en vain, car la personne, si elle aime se positionner ainsi, c'est pas de l'aide qu'elle cherche, finalement, que je la plaigne, et moi, je lui apporte de l'aide. Donc, finalement, ce trait du sauveur, c'est de... ça va être de perdre du temps, beaucoup de temps, et puis en plus, qu'est-ce qui va se passer souvent, c'est que le sauveur, en fait, il va s'intéresser au persécuteur pour défendre la victime, et donc le sauveur peut devenir aussi un peu persécuteur par quelques biais, en s'attaquant au persécuteur de la victime. Voilà, ça peut arriver. Et donc, on va partir dans des discussions sans fin et sans vainqueur, parce que finalement, on a la victime qui est bien dans son rôle de victime, qui a trouvé à la fois un persécuteur et un sauveur, et puis le sauveur, finalement, il se retrouve aussi à persécuter un petit peu le persécuteur lui-même, et puis à aller savoir si parfois le persécuteur pourrait pas se transformer en sauveur quand il se rend compte que finalement ça dérape un petit peu, etc. Mais au final, on tourne, ça finit par des invectives, ça finit par des blocages de comptes, etc. Bref, c'est ne marche jamais bien. Et puis, notez aussi que vraiment, hein, c'est que des fois, on peut se sentir mal en devenant persécuteur, parce que si je deviens persécuteur et que à cette personne-là qui se plaint, je dis arrête de te plaindre et tout, franchement, t'as pas de quoi te plaindre, etc. Et je lui dis d'une manière un petit peu méchante, et même très cinglante, je vais m'en vouloir d'être rentré dans ce rôle de persécuteur. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce que je lui dis? Mais oh là là, franchement, j'étais méchant, etc. Alors des fois, on s'en rend pas compte, et puis il y a quelqu'un qui vient et dit, et franchement, mais t'as vu le commentaire que tu lui as mis? T'as vu comme c'est méchant ce truc-là? Et là, tout d'un coup, ça vous renforce dans le fait de dire, oh punaise, mais finalement, j'étais persécuteur dans cette histoire-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû parler comme ça, etc. Et on se sent mal. Donc ça, c'était un premier exemple. Je vous en donnais un autre. Par exemple, vous créez du contenu sur votre thématique en voulant aider. Disons que vous êtes une femme ménopausée qui veut aider les autres femmes qui s'ouvrent de ce passage, de ce changement de vie. Bon, il y aurait un truc qui pourrait être de dire là-dedans, c'est de vous dire, moi, voilà, je me sens un peu sauveuse du monde, très très clairement sauveuse du monde. J'essaie de convaincre tout le monde, notamment, alors tout le monde, vous pouvez pas convaincre les hommes, mais notamment des femmes qui vivent bien ce moment, en leur disant, mais si, vous allez voir, ça va arriver, quoi, t'as pas les symptômes, mais si, tu vas voir, ça va arriver, etc. Forcément, ça arrive à un moment donné, je vais te donner des conseils pour le jour où ça va arriver. Vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez vous placer en coach, mentor, gourou, voilà, vraiment le sauveur, et vraiment, vous allez, si, tu vas voir, ça va arriver, etc. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, vous allez vous épuiser, parce que vous allez essayer de donner des solutions à des personnes qui finalement n'ont pas le problème. Et là, vous allez parler surtout à un public froid, et donc non sensible à votre discours, car n'a pas le problème. Alors, en tant que femme ménopausée, si vous avez le problème, vous pourriez vous dire aussi, je me positionne en tant que victime. Oh là là, je souffre, je perds ma libido, je perds mes cheveux ne sont pas pareils, ma peau n'est pas pareille, je me sens plus une femme, etc. Mais que vont penser les hommes de moi? Ma vie sexuelle est terminée, enfin voilà, et tout va mal. Bref, et donc dans ce cas-là, bah, vous allez avoir cherché des gens qui vont vous réconforter, etc. Et allez savoir si vous n'avez pas cherché un gourou. Bref, voilà, et vous voyez que en tant que créateur de contenu, on pourrait être très facilement dans les situations étonnantes, dans ces deux situations qui sont très classiques. Et d'ailleurs, il ne serait pas étonnant si je me plaçais par exemple en gourou, en disant ben voilà, t'inquiète, ça va arriver, vous allez voir les trucs, etc. Ou alors en donnant des méthodes qui ont marché pour moi, des personnes qui disent ouais ben c'est bien beau tes méthodes, mais moi ça marche pas pour moi. Ah bah ben, tiens, là ça peut être un commentaire cinglant. Bah ben, ça peut être peut-être quelqu'un qui va se retrouver dans une situation en disant franchement tu nous énerves entre la manière dont tu parles, etc. Arrête avec tes conseils. Pam, là c'est un persécuteur qui va. Enfin, qui va rentrer dans un rôle un peu persécuteur, ou alors quelqu'un qui finalement bah, va dire bah, arrête de te plaindre, etc. De quoi tu te plains, tu te rends pas compte, chez moi c'est pire, t'aurais pu faire comme ma mère ou nos grands-mères, etc. Mais de quoi tu te plains, etc. Bref, vous comprenez bien que là encore, on va avoir un comportement un petit peu un peu persécuteur sur l'instant. Et en fait, ce qui est important aussi là-dedans, c'est de se rendre compte que finalement, si je me positionnais là-dedans en tant que gourou, si cette femme-là se disait en tant que, enfin pas gourou, c'est un peu gros, mais coach, mentor, etc., qui veut aider les autres femmes, etc. Et ben si elle arrive à parler à personne, parce que finalement elle essaie de parler à tout le monde, mais finalement elle parle à personne, elle va peut-être se rendre compte que finalement, eh ben, personne ne l'écoute. Et donc finalement elle n'a pas de victime à aider, et finalement se poser la question de dire mais finalement à quoi je sers, hein, moi je vous faire du contenu sur la ménopause, aider les gens, etc. Et finalement il y a personne qui demande de conseils. Je mets un message sur Instagram, il y a personne qui répond, j'ai pas de commentaires, etc. Mais finalement à quoi je sers? Je sers à rien, voilà, je sers à rien. Et donc finalement bah, quand on est à le mythe du sauveur et que on a personne à sauver, bah, ça nous détruit un petit peu le moral et l'estime de soi. Et voilà pourquoi d'ailleurs à ce sujet-là la niche est extrêmement importante, parce que au lieu de s'adresser à des personnes lambda, j'ai envie de dire, qui sont globalement, qui peuvent être potentiellement, qu'on peut potentiellement avoir le problème. On va dire, par exemple, là, toutes les femmes de 50 à 60 ans, dans mon exemple, hein, ou 50 à 65 ans, pour être un peu plus large sur le cas de la ménopause. Je vais vraiment m'adresser plutôt à des personnes qui sont dans cette tranche de 50 à 65 ans, mais qui ont vraiment le problème, qui l'expérimentent vraiment le problème, et qui cherchent activement une solution. Et là-dedans, il y a une grande différence entre une personne qui dit « Bon, j'ai potentiellement ce problème, ou j'aimerais pas trop avoir ce problème, ou alors j'ai l'impression que j'ai un peu ce problème-là, et j'aimerais trouver une solution », mais qui finalement se contente de dire ça, et une personne qui fait la démarche de chercher la solution activement sur Google et sur YouTube, et qui dans ce cas-là est déjà beaucoup plus chaude dans sa relation avec votre contenu, avec ce que vous pouvez proposer, tout simplement parce qu'elle cherche une vraie solution. Et donc là, quand vous lui apportez une solution, eh ben finalement ça devient plus facile parce qu'elle est plus à l'écoute de vous. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de se positionner, parce qu'on a tous en nous une âme de plutôt sauveur, ou une âme plutôt victime, ou une âme un peu persécuteur, etc. Et je vous répète, on peut être les trois. Maintenant, regardez votre quotidien et combien de fois vous êtes dans une situation ou dans une autre. Et ça arrive très fréquemment en fait. Regardez un petit peu les discussions que vous avez autour de vous. Regardez les discussions que vous avez notamment sur Internet, etc. Vous allez vous rendre compte que vous passez probablement d'une situation à l'autre. Vraiment, assez facilement. Reprenons mon exemple vécu la semaine dernière, hein, sur ce fameux live YouTube. Les personnes se plaignent en disant qu'elles sont blessées. Bon, elles peuvent se dire, ouais, je me sens victime, vous m'avez fait mal à mon cœur, etc. Ça me blesse, etc. D'accord. Je me sens blessé, moi, par leur critique. Ah, alors là, je peux jouer leur rôle aussi de victime. Je suis bien incompris, mais vous comprenez pas. C'était une personne qui était géniale, c'était super bien, etc. Vous devez entendre ce message, etc. Et finalement, ben, je n'écoute pas trop, hein, un petit peu leur message qu'elles ont à faire passer. Et puis, je pourrais me passer en tant que persécuteur. Et attendez, oh, si ça vous plaît pas, vous partez, moi, hop, basta, quoi, etc. Arrêtez de vous plaindre, il a entièrement raison, vous n'avez pas de circonstances atténuantes, etc. Et ben, vous voyez que dans cette situation-là, je peux être à la fois un peu la victime, je suis incompris, le persécuteur qui va enfoncer un petit peu en leur disant eh, attendez, ça va quoi, arrêtez de gueuler, etc. Et dans les deux situations, forcément, je suis mal. Je ronchonne au lieu de comprendre, je suis méchant envers les autres et je vais m'en vouloir, je casse la dynamique de groupe et de la communauté. Bref, il n'y a rien qui marche, tout le monde est mécontent. Et les victimes qui se plaignaient au départ, qui étaient un peu dans leur position de victime et qui n'étaient peut-être pas dans une position de victime, qui avaient juste finalement à élaborer un message, à dire bah voilà, moi je l'ai mal pris, etc., ça a été un peu compliqué pour moi, en fait elle donnait un ressenti, peut-être pas pour qu'on les plaigne, mais pour qu'on les comprenne, hein, vous voyez. Et c'est pour ça que cette compréhension est extrêmement importante. Et bien entendu, au milieu de tout ça, bah, il faut bien un sauveur qui débarque en essayant de défendre un petit peu tous ceux qui se plaignent, mais aussi moi qui ai organisé tout ça. Et au final, qu'est-ce qui va se retrouver pour lui, la situation dans laquelle il peut se retrouver? Bah, il se retrouve au milieu. Et se trouver mal aussi, car les victimes, celles qui sont victimes, vont lui dire, oui, mais toi, tu peux pas comprendre, ça t'arrive pas, etc., toi, tu l'aimes bien, et puis toi, t'aimes bien Bertrand, etc., donc, franchement, tu vas toujours le défendre, ou, voilà. Et donc, finalement, lui, il se retrouve un petit peu attaqué par des victimes qui deviennent à nouveau cinglantes avec, celui qui apparaissait en sauveur, et puis, même, finalement, celui qui fait, et les deux victimes, d'ailleurs, dans ce cas-là, finalement, vous êtes dans un triangle où il y aurait deux victimes, et donc, finalement, le sauveur, il va se retrouver dans une situation, où il est pas super bien non plus, lui-même, parce que, finalement, en voulant aider tout le monde, et ben il se retrouve lui-même pris à partie et au milieu d'une discussion un petit peu compliquée pour lui parce que tout simplement c'est difficile de réconcilier deux si tout le monde reste sur cette position-là. Et en fait, le problème c'est que il faut surtout pas être dans cette position-là. C'est comme ça qu'il faut éviter surtout d'aller dans l'une de ces trois positions. Il faut vraiment vraiment se dire que il faut pas rentrer dans ces rôles-là. Je le répète, ces rôles sont ce triangle est dramatique parce que aucun des rôles n'est confortable et tous les rôles nous abîment. Ils sont pratiques parce que ce sont des réflexes de notre esprit. Depuis qu'on est petit, on va rentrer dans ce réflexe-là. Même ma fille qui a 3 ans et demi, je le vois des fois se positionner un petit peu en victime et sur des choses comme ça. Et puis parfois avoir un comportement qui est un peu plus cinglant sur certaines réponses, etc. Et puis peut-être que des fois aussi, et ça je peux l'observer aussi, parfois elle va venir un peu en sauveuse, un peu du monde, etc. Par exemple, quand on va pas bien, elle va dire je viens venir t'aider, etc. Donc elle peut avoir déjà ce comportement-là. Le truc après, c'est de savoir comment ces réflexes-là vont rester, vont rentrer, et comment se comportent les uns avec ça. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier chaque rôle, se demander quelle est notre croyance, quelles sont nos croyances profondes. Est-ce qu'on a plutôt une tendance à se comporter en tant que victime, en tant que grand gourou, sauveur du monde, ou plutôt en tant que un peu persécuteur? Regardez vos discussions précédentes, regardez comment vous vous comportez en général, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, que ce soit dans les mails que vous recevez, dans les mails que vous envoyez, que ce soit dans les relations que vous avez, par exemple, dans des groupes de coaching ou je ne sais pas quoi. Regardez aussi comment vous comportez dans les discussions en famille, avec les amis, etc. Vous allez voir que à un moment donné, vous êtes forcément rentré dans une des trois positions. Et je suis rentré, moi, dans l'une des trois positions. Et je peux le dire, même des fois, dans la même discussion, on peut rentrer dans les trois positions. Je sais que je suis, en général, un sauveur, en voulant défendre des points de vue des fois très contrariens, parce que des fois, il y a des gens qui mettent un avis qui est contraire à tout ce que les autres pensent. Et moi, j'aime bien, justement, aller un peu titiller, justement, dire, oui, non, mais c'est pas faux ton truc, etc. Et là, on rentre un petit peu, vous voyez, dans des procédure rhétorique où on peut prêcher tout et son contraire et les deux s'ils sont bien débattus sont valables sont vraiment valables, mais finalement en faisant ça et des fois finalement par rapport à celui qui a mis un message et si on va le défendre on apparaît un peu comme un sauveur. Et on peut être attaqué d'ailleurs, et on peut se retrouver aussi avec des messages cinglants, mais je pourrais être aussi finalement très cinglant quand il y a des messages, quand j'estime que les autres ne comprennent pas ce que je finis par dire. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va dire? Je défends mon point de vue, etc. Puis les gens disent, ouais, non, mais attends, ça va bien ton truc et tout, on parlait pas de ça, etc. Et là, tout d'un coup, je peux devenir cinglant en disant, oh merde, je suis juste venu aider, vous me faites chier, je me casse. Et ouais, bon, tant que je le dis comme ça encore, ça va. Mais si je le mettais avec un ton méchant sur les personnes en disant, vous avez rien compris, vous êtes nul, etc. Restez là où vous êtes, et puis de toute façon, vous arriverez jamais à faire du contenu, vous arriverez jamais à faire votre podcast, vous êtes incompétent, vous n'y arriverez pas. Là, franchement, je suis un sale con, un persécuteur maximum. Et pourtant, quand on s'énerve, ça peut arriver. Parce que souvent, en fait, on prend ces rôles-là quand on s'énerve, quand on s'agace de quelque chose, quand on n'arrive pas à rentrer dans la logique. Alors, comment on fait ça? Eh ben, en sachant ça, ce qu'on va faire, c'est d'abord prendre le temps de respirer un grand coup. On prend le temps avant de répondre. On répond pas tout de suite. Moi, je donnais souvent ce conseil-là à des gens qui font du community management et notamment aux chefs d'entreprise, aux commerçants, aux petits patrons, etc., qui gèrent eux-mêmes leur page Facebook, leur compte Instagram, quand ils se prennent un message négatif. Mais c'est valable pour nous en tant que créateurs de contenu. Quand je me prends un message négatif, on prend le temps de respirer. Moi, j'étais même pompier pour certains. Je disais, écoutez, quand vraiment il y a quelqu'un qui vous énerve, c'est pas un problème. Vous m'envoyez le truc et moi je répondrai. Parce qu'un jour, j'ai eu le cas de quelqu'un comme ça, qui un commerçant qui s'est senti attaqué, qui a fait une réponse, je peux vous garantir. Elle était magnifique, elle était alambiquée un petit peu avec beaucoup d'ironie, etc. Mais la personne en face, elle l'a très bien comprise, elle a vraiment très bien comprise. Et même, elle s'est sentie vraiment attaquée. Donc finalement, la personne au départ, elle mettait un commentaire qui était peut-être pas d'ailleurs si injustifié que ça. Mais mon commerçant, que je conseillais à ce moment-là et qui avait voulu faire la réponse tout seul dans son coin, lui s'est senti attaqué, il s'est senti un peu victime. Et en fait, sa réponse a été très cinglante et très méchante. Et je peux vous garantir que derrière, pour rattraper ce qui a été cassé, ça n'a pas été facile. Il a dû d'ailleurs offrir offrir un peu quelques trucs gratos, etc. Et même encore quelques temps après, il avait encore des remarques et on sentait qu'un bout de la relation était cassé, tout simplement, était cassé avec ce client-là, qui était pourtant au départ un excellent client. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le temps de respirer un grand coup. On prend le temps de répondre, on répond pas tout de suite. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai pris 3 jours pour répondre sur l'histoire du live. Et puis, des fois, on se dit qu'il faut pas répondre et ne pas participer du tout à la discussion. Combien de fois désormais sur Instagram et sur YouTube et surtout sur Facebook d'ailleurs, c'est surtout sur Facebook, des fois je commence à taper une réponse et j'arrête tout simplement de taper ma réponse, j'efface mon message et je pars, je m'en vais en me disant essaye pas de jouer au sauveur, t'y arriveras pas, essaye pas non plus de défendre tel ou tel point, t'y arriveras pas, fais attention parce que là si celui-là t'énerve, comment tu vas répondre, tu peux rentrer dans des discussions et tu peux partir comme un peu cinglant, un peu méchant sur certaines choses, et puis fais attention aussi à ne pas publier certaines choses en tant que victime, vraiment, en essayant de se placer, en essayant de trouver un sauveur ou je ne sais pas quoi, ou peut-être même un persécuteur. Place-toi dans une dynamique qui soit beaucoup plus, j'allais dire dynamique, je sais pas comment dire, mais plus constructive, etc. Et avec une bienveillance envers moi-même, mais ce qui veut pas dire forcément beaucoup de complaisance non plus, hein, c'est de dire, honnêtement, j'ai fait ça, etc. Est-ce que je peux me plaindre? Peut-être. Est-ce que ça vient de moi ou pas? J'en sais rien. Et là, ça nous amène à une dernière chose, c'est qu'il faut admettre la réalité des choses. En fait, nous avons besoin des autres pour exister, mais des fois, en fait, ce lien qu'on a, on est des animaux sociaux, hein, et c'est tout, c'est comme ça, mais c'est parfois ce lien-là, en fait, il est difficile à gérer. Et notamment dans la création de contenu, on le sait très bien, c'est que si vous publiez un contenu, vous attendez d'avoir des commentaires, vous attendez d'avoir des j'aime, vous attendez d'avoir des remarques, des félicitations, ou je ne sais pas quoi. Vous attendez donc une validation de votre propos. Si quelqu'un vient vous mettre un message négatif, vous n'allez pas être super content, mais si en plus il est cinglant, vous allez vous dire, vite vous placer dans un contexte de victime en disant, j'ai pas bien compris, etc. Et là, ça marche pas très bien. Parce que peut-être que le commentaire de la personne, il était tout à fait valide. Mais peut-être que la personne, en le mettant d'une manière un petit peu énervée, un petit peu persécuteur, finalement, elle aussi, elle est rentrée dans une dynamique qui n'était pas très bonne pour elle. Parce que finalement, elle apparaît comme une personne méchante, alors que potentiellement, c'est une personne aussi sympa que vous, et vraiment aussi sympa que vous, mais parfois aussi conne que vous, et que moi, et que nous tous, etc. Et voilà, ça peut arriver, c'est comme ça qu'on rentre dans ce genre de dynamique. Et là, il faudrait se dire que notre bonheur, esprit doit vraiment se dire qu'on doit être capable de se détacher des autres, qu'il faut absolument par moment se construire notre estime de nous et notre confiance sur des choses qui dépendent de nous, vraiment qui dépendent de nous et pas seulement de l'approbation des autres, pas des messages positifs des autres, qu'on n'attend pas systématiquement l'approbation des autres pour dire ça c'est bien ou quoi que ce soit. Et ce qui veut dire d'ailleurs quand on fait du contenu que le critère de mesure n'est pas le nombre de commentaires, de j'aime, de gens qui disent qu'on adore. C'est pas non plus forcément aussi le nombre de gens qui vont acheter notre bouquin, notre formation ou quoi que ce soit. Parce que c'est un critère qui dépend des autres et qui ne dépend pas de nous. Et il faut aller chercher dans la création, dans ce que l'on fait, dans notre vie créative, en fait, des choses qui dépendent de nous. Se dire, je suis content d'avoir créé ce contenu-là parce que je pense que c'est le meilleur contenu que je pouvais faire avec les moyens que j'ai maintenant. Et je pense qu'il peut aider des gens. Et même si finalement, il n'y a pas un grand monde qui le verra, je suis quand même content du contenu que j'ai produit. Je suis content de l'information que j'ai produite, je suis content de mon livre, je suis content d'avoir fait telle ou telle chose, ça n'a peut-être pas marché comme j'attendais, peut-être j'attendais d'autres retours, etc. Mais je dois être content finalement de l'action, du trajet, de ce que j'ai fait, plutôt que d'attendre finalement de tout baser sur la réaction des autres personnes, parce que des fois elle ne vient pas et dans ce cas-là on est déçu, et parfois elle vient mais elle est plus cinglante qu'on attendait, elle n'est pas dans le sens qu'on attendait et on est déçu aussi, et dans tous les cas on perd. Voilà, sur ce, il me reste à vous souhaiter une très 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 belle journée, non sans vous avoir rappelé de me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous savez que ça aide le podcast à se faire découvrir, et ça fait un petit moment quand même qu'il n'y a pas eu de commentaire sur Apple Podcast. Si vous appréciez ces épisodes, si vous appréciez mes contenus, si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast et me faire remonter un peu dans les classements parce que j'ai changé récemment de catégorie et puis Apple Podcast m'avait un petit peu déclassé. Donc là maintenant, il faut qu'il me reclasse et remonter un peu dans les catégories. Et un petit commentaire, c'est vraiment, 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 vraiment une très, très bonne action que vous pouvez faire. Et je vous en remercie d'avance et je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.